Chapitre 10. En l'honneur de leurs visiteurs, les sorciers d'Ildakar organisèrent une grande fête. Après avoir lu pendant des siècles de fabuleux récits sur l'antique mégalopole, Nathan prenait un plaisir fou à y être. En arpentant les rues en spirale, il avait admiré les jardins suspendus, les bâtiments blancs, les toits émaillés et les superbes tours. Craignant d'être tombé dans quelque transe, il lui était arrivé d'avoir envie de se pincer pour y croire. Mais son intérêt pour la ville avait des motivations plus profondes. Depuis qu'il l'avait vue à Kolader, il espérait que la solution de son problème était à Ildakar. À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier. À présent, il comprenait le sens de ces mots. Enfin arrivé à l'endroit où il devait être, il pouvait raisonnablement attendre que les plus grands sorciers de l'histoire l'aident à redevenir lui-même. « Il n'y a pas de meilleure raison pour organiser un banquet !» s'écria Maxime, assez fort pour faire sursauter les alouettes en cage de son épouse. « Qu'on prévienne les cuisiniers et qu'on fasse abattre un beau yaksen. Les boulangers aussi devront se surpasser. Que cette fête soit inoubliable !» Avec un rictus, Maxime jeta un coup d'œil à Thora, pas plus enthousiaste que ça. « Comme vous le voyez, ma femme a du mal à cacher son excitation. » Thora tira sur le tissu bleu de la toge qui coulait comme de l'huile le long de son corps voluptueux. « Ildakar est impitoyable avec ses ennemis, de l'intérieur comme de l'extérieur. Avec ses amis, en revanche, elle sait se montrer chaleureuse. » Le haut capitaine Avry n'était pas bien loin de la Sovréna et ne cachait pas la tendresse qu'elle lui inspirait. Bien qu'il fût le protecteur officiel de la cité, le fringant officier semblait surtout se concentrer sur la sécurité et le bien-être de la belle et glaciale Thora. Les yeux baissés, leur voix à peine plus haute qu'un murmure, des serviteurs furent chargés de guider les invités hors de la tour, puis jusqu'à une somptueuse villa. « C'est la résidence de la Sovréna et du sorcier en chef », expliqua un domestique qui faisait penser à un soupir de lassitude ambulant. « Vous aurez chacun une chambre où vous pourrez faire vos ablutions et vous changer. Des tenues propres vous seront fournies. Le banquet commencera dans une heure. » L'homme sourit poliment mais sans une once de chaleur. « J'espère que vous avez faim. » Entendant son estomac grommeler, Nathan conclut qu'il était dans l'état rêvé pour festoyer. Mais il était aussi pressé d'exposer son problème aux sorciers et d'obtenir leur aide. « Une heure ?» s'étonna Bannon. « Pour préparer un banquet de ce genre, il faut plusieurs jours. » Le domestique peu aimable fronça les sourcils. « En principe, oui, mais les membres du conseil n'ont aucune envie d'attendre. Puisqu'ils l'ont ordonné, nous ferons ce qu'ils demandent. » La villa, en réalité un petit palais, était partout richement décorée. Sur les hautes colonnes de marbre veinées de rouge et d'or, des runes et des glyphes composaient un ensemble complexe de sorts de défense. Des étendards y pendaient, arborant le soleil et les éclairs symboles de la cité. Après que les serviteurs eurent conduit Bannon et Nietzsche dans leurs chambres respectives, Nathan balaya du regard celle qu'on lui avait allouée. Un lit spacieux, des rideaux vaporeux aux fenêtres ouvertes, des vases emplis de gueules de loup et même, sur le balcon, un géranium dont les feuilles recouvraient en partie la balustrade. Fixé à un mur, une cuve hémisphérique permettait à l'occupant de faire ses ablutions. En même temps, elle tenait lieu de miroir liquide. Quand il y plongea les mains, Nathan dissipa son reflet, mais non sans avoir pris la mesure des interventions les plus urgentes. Le visage couvert de poussière et les cheveux en mêlée, beaucoup plus que d'habitude, et il fit ce qu'il fallait, puis inspecta les vêtements laissés à son intention par un serviteur. Après tant de jours passés dans les mêmes frusques, se changer serait un plaisir. Au bout d'une heure, propre comme un sou neuf et vêtu à la dernière mode d'Ildakar, Nathan Rahl eut le sentiment d'être un homme nouveau, mais toujours pas un sorcier et un prophète. Sa longue tunique d'emprunt en soie verte, bordée de cuivre au poignet et à l'ourlet, changeait beaucoup de sa, jadis, flamboyante tenue de voyage, mais elle avait le mérite d'être propre. Utilisant le peigne en écailles de tortue trouvé parmi les débris après leur naufrage sur la côte fantôme, le vieil homme avait réussi à débroussailler ses cheveux et découvert, quel plaisir, qu'ils étaient désormais assez longs pour être portés en queue de cheval. Faute de véritable miroir, Nathan vérifia son allure dans la cuve miroir et décida qu'il était redevenu présentable. Et même plus que ça, à vrai dire. un type qui en jetait comme il convenait pour l'ambassadeur itinérant de Dara. Quand il rejoignit ses amis dans le couloir de la salle des festins, le vieil homme vit que Bannon aussi était transfiguré. Parfaitement récuré, il rayonnait dans une tunique courte marron tenue par une ceinture en tissu noir et un pantalon ample assorti, dans lequel cependant il ne paraissait pas totalement à son aise. Dédaignant la tenue qu'on lui avait proposée, Nietzsche avait utilisé sa magie pour nettoyer et sécher sa robe noire. Ainsi vêtu, plus sobrement qu'à la mode d'Ildakar, ses cheveux blonds brossés et ramenés en arrière, la magicienne restait d'une saisissante beauté. Bien que ses hôtes lui en aient proposé toute une collection, elle n'arborait aucun bijou et nul n'aurait pu prétendre que ça manquait à sa mise.
« Magicienne, tu es splendide au naturel !»
s'extasia Nathan. Nietzsche le regarda, sourcils froncés. « L'idée n'est pas d'être splendide, mais d'inspirer le respect. »«
Et ta splendeur alliée à ton charme t'en attirera à profusion. »
« Dans ce cas, j'espère pouvoir t'aider à trouver ce que tu es venu chercher ici. Te revoir en pleine forme serait une joie. » Se détournant, Nietzsche suivit les domestiques qui introduisirent les invités dans la salle des festins de la villa. Nathan ne se formalisa pas de ce dialogue un peu sec. La magicienne, il le savait, n'était pas à l'aise avec les compliments, autant pour les recevoir que pour en donner, fallait-il préciser. Souriant aux anges, Bannon emboîta le pas à Nietzsche.
Une ville comme ça, je ne rêvais même pas d'y mettre un jour les pieds. Et un banquet avec des têtes couronnées? Douce mère la mère, j'aimerais pouvoir raconter ça à Chiria.
Et à qui, si je peux me permettre? Demanda Nathan. Si j'ai bien compris, tu n'as plus personne sur ton île.
Trop tard. Le vieil homme mesura à quel point sa saillie était cruelle. En un clin d'œil, Bannon se décomposa. Sur Chiria, son père, un type violent et cruel, avait battu sa mère à mort. Et Yann, son ami d'enfance, avait été enlevé par des Norukai, lui laissant le sort peu enviable de celui qui s'en était tiré en fuyant. Lui rappeler son infortune, décidément, n'avait pas été très délicat. Sincèrement contrit, Nathan serra l'épaule du jeune homme.
« Désolé, fiston, nous sommes partis à l'aventure comme tu le désirais, et Ildakar est la merveille des merveilles. « Ensemble, nous saurons en profiter. »
Bannon reprit du poil de la bête.
« Bien sûr qu'on en profitera. »
Énorme comme tout le reste dans la villa, la salle des festins était à ciel ouvert, un treillis de vignes lui tenant lieu de plafond. Sur la grande table, on avait disposé un vase de fleurs tous les 5 pieds et une grande cage en or reposait sur un présentoir près du siège de la Sovréna. Des alouettes y voltaient, certaines daignant même pousser quelques trilles. Quand il découvrit l'extraordinaire buffet, Nathan ne put empêcher son estomac de grommeler une nouvelle fois. Au milieu de la table trônait une énorme broche où était fiché un grand rôti mariné aux herbes et dont le jus odorant coulait dans un plat ovale. Autour, des paniers proposaient des tresses de pain piquées de fruits rouges et de noix qui évoquaient de riches pierres précieuses serties sur des montures d'or. Montées en pyramide, des coupes offraient à la voracité des convives des tranches de fruits frais et toute une variété de crèmes. Pour accompagner la viande, des pommes de terre sautées voisinaient avec des légumes et d'autres tubercules arrosés de beurre fondu. Comme des fourmis dérangées par un intrus, une horde de domestiques s'agitait autour de la table et des invités. Alors que Thora et Maxime siégeaient aux places d'honneur, le haut capitaine Avry au garde-à-vous pas très loin de sa dame, les 6 membres du Douma étaient répartis des 2 côtés de la table. À la grande surprise de Nathan, Amos et ses 2 copains étaient également de la fête. Dès qu'il les aperçut, Bannon sourit aux 3 jeunes gens. Voyant qu'ils ne semblaient pas le remarquer, il ne sut plus sur quel pied danser. La seule femme du conseil, Elsa, paradait dans un châle gris et une robe couleur argent un peu trop petite pour sa solide corpulence. Repérant Nathan, elle désigna la chaise proche de la sienne.
« Sorcier, tu veux bien te joindre à moi? La chaise à côté de celle du sorcier en chef est réservée à la magicienne Nietzsche. »«
Ce sera un plaisir et un honneur, très cher, » dit Nathan en s'asseyant.
Si elle n'était pas belle à proprement parler, Elsa méritait au minimum l'adjectif « jolie ». À dire vrai, elle ressemblait beaucoup à Annalina Aldurenne, La dame abbesse avec qui Nathan avait pas mal bourlingué après leur évasion du palais des prophètes. Au fil de leur voyage, Anna s'était révélée une compagne des plus intéressantes, malgré quelques défauts agaçants. Au bout du compte, Nathan s'était énormément attaché à elle. Hélas, les sœurs de l'obscurité l'avaient assassinée. Un deuil cruel, mais quand on vivait 1000 ans, perdre des proches et des connaissances faisait partie du contrat. Après avoir souri à Elsa, le vieux coquet rectifia un pli sur sa tunique verte.
« Des arômes délicieux et une compagnie triée sur le volet !»
lança-t-il, courtois comme à l'accoutumée.
« Ildakar tient à se montrer sous son meilleur jour !»
répliqua Thora.
« Nous sommes pressés d'en savoir plus sur votre pays et sur la raison de votre visite !»
Magnifique dans sa robe noire, Nietzsche prit place à côté de Maxime. Comme les membres du conseil, elle attendit que les domestiques viennent remplir son assiette. Un grand type au bras très long découpa des tranches de viande et servit la magicienne avant Nathan et Bannon.
« Le rôti de Yaxen est une merveille !» déclara Maxime. « Une des grandes spécialités de notre ville !»«
Qu'on me donne une tranche du morceau de choix !»
marmonna Yvan sur son siège. Assis non loin de lui, André se fendit de quelques explications.
« Les Yaxen sont élevés pour produire une viande exceptionnelle !» En 1500 ans d'isolement, nous avons eu le temps de peaufiner nos méthodes. Chaque morceau vous fondra dans la bouche.
Prenant son assiette, il attendit au domestique. Peu intéressé par la gastronomie, Nietzsche entra dans le vif du sujet.
Nous arrivons de Dara, où le seigneur Richard Rahl a vaincu l'empereur Sulakhan, revenu d'entre les morts. Avant ça, il avait triomphé de Jagang et de son ordre impérial. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Monde pour répandre ces paroles de paix et nous assurer qu'il n'y aura plus jamais de tyran.
Nathan s'essuya délicatement les lèvres avec sa serviette, puis il ajouta
« Nous sommes aussi venus pour des raisons personnelles. Selon toute vraisemblance, c'est une voyante qui nous a guidés vers vous. »
Il sortit d'une poche le livre de vie dont il ne se séparait jamais.
« Voilà les mots qui nous ont mis sur la piste. » L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. Kolader est très loin au sud dans l'Ancien Monde. À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier et la magicienne devra sauver le monde.
Le vieux sorcier sourit à l'assistance.
Nous avons vu votre ville depuis Kolader, exactement comme ce texte le prédit. Du coup, nous pensons que quelqu'un ici pourra m'aider à redevenir entier.
André étudia le vieil homme de pied en cap.
Et que vous manque-t-il précisément?
L'heure étant venue de dévoiler ses faiblesses, Nathan hésita un instant. Faute de pouvoir faire autrement, il finit par se lancer.
Récemment, j'ai perdu mon don de prophétie, ce qui n'avait rien de catastrophique, si je peux me permettre de le dire, vu les ennuis qu'il m'a attirés. Mais les changements ne se sont pas arrêtés là.
Le vieil homme déglutit péniblement, puis dissimula sa gêne derrière un sourire.
En Dara, j'étais un grand sorcier en plus d'un prophète. Mais quand les prédictions furent bannies de l'autre côté du voile, il est apparu que ce don avait un lien avec mes autres pouvoirs. Bref, je ne suis plus un sorcier non plus. Si j'essaie de jeter un sort, les conséquences sont, eh bien, disons, remarquables et imprévisibles, pour rester poli.
Maxime leva une main.
Voilà des siècles que nous n'avons plus de lien avec les prophéties. Le linceul nous isolant du flot du temps, pourquoi nous soucierions-nous de prédictions et d'oracles? Depuis les grandes guerres, nous n'avons plus de prophètes et ça ne nous manque pas.
Le sorcier à la peau noire, Quentin, prit un pain au raisin, l'étudia, puis parla à Nathan tout en s'emparant d'un beurrier.
Ça n'a aucun sens. Le don fait partie d'un individu, il ne peut pas le perdre.
Une couronne de cheveux gris autour du crâne, cet homme avait l'air très vieux et très sage.
« Il n'a pas seulement perdu son don de prophète, »
dit Thora,
« mais la totalité de ses pouvoirs. »
Elle regarda son mari.
« Comment est-ce possible ?»«
Je n'en sais rien, »
répondit Nathan.
C'est pour ça que nous sommes ici, poussés par les indices de la voyante. À Ildakar, quelqu'un doit connaître la réponse. Alors, je me trompe ?
Nathan balaya l'assistance du regard, plein d'espoir.
C'est très inquiétant,
dit Ren. Il se tapota les lèvres avec sa serviette, mais un peu de jus coula quand même sur sa tunique. Ce type étant plus qu'enveloppé, sa multitude de mentons ne devait pas toujours lui faciliter la vie.
« Nous avons tous le don ici. »
Il blêmit soudain.
« Si tu as perdu le tien, sorcier Nathan, le même mal pourra nous frapper. Et si c'était contagieux, comme la grippe ?»«
Je voyage avec lui depuis un bon moment, » annonça Nietzsche. « Et il ne m'est rien arrivé. »
« Ce cas mérite d'être étudié, » dit André. « Le sorcier Nathan sera un sujet des plus intéressants. »«
Nous devrions plutôt l'appeler l'ancien sorcier Nathan, » corrigea Thora. « À Ildakar, les détenteurs du don bénéficient de bien des privilèges. Si ce sorcier est impuissant, nous devons nous montrer prudents. »
Penché sur la table, André examina Nathan comme un maquignon inspecte un cheval.
« J'ai conçu beaucoup de sorts analytiques. Il faudra conduire des recherches, prélever des échantillons de sang. »
Elsa se pencha vers Nathan et souffla.
« André est le plus grand sorcier de chair d'Ildakar. Ses exploits sont légendaires. »
André prit une bouchée de viande et parla tout en mâchant.
« Il y a des siècles de ça, j'ai participé à la création des Yaksen. C'est grâce à mon intervention qu'ils sont si délicieux. »
« C'est quoi un sorcier de chair ?»
demanda Bannon, toujours curieux.
« Quelqu'un qui peut modeler et métamorphoser les créatures vivantes !»
répondit André, fier de lui.
« Au fil des ans, » ajouta Ivan, « il a été très imaginatif. Dans l'arène, nous utilisons plusieurs de ses créations. »
Les sangs glacés, Nathan pensa à l'ours de combat qu'ils avaient dû affronter dans les collines. Tout homme capable de créer une telle abomination était...
« Les inquiétudes du sorcier Ren sont fondées, »
dit Thora.
« Si un détenteur du don peut perdre ses pouvoirs, nous devons apprendre comment et pourquoi. Notre magie est-elle en danger ? Il faut résoudre ce problème. »
Elle se tourna vers le sorcier de chair.
« Tu as notre bénédiction, André, et nos ordres. Étudie cet homme. »
« Je l'aurais fait sans ordre. »
dit André, les yeux pétillants d'intérêt. Il regarda Nietzsche.
« Mais toi, magicienne, tu as toujours tes pouvoirs. Intact comme tu le prétends ?»
Maxime se pencha vers Nietzsche et souffla. « Tu rayonnes de beauté, mais je doute que ce soit un effet de ta magie. »
« Non, c'est ainsi que je suis. Et oui, mon don est inchangé. »«
C'est merveilleux !»
s'exclama Maxime. À Ildakar, la hiérarchie sociale repose sur le don. Les dirigeants, c'est-à-dire nous, sont les plus puissants, ce qui est normal. Les marchands et les artisans, eux, ont au moins une étincelle de magie, mais fort peu de pouvoirs effectifs. Quant à ceux qui sont privés de tout don, ils nous servent comme des esclaves. Que pourraient-ils faire d'autre, les pauvres ?
Je n'ai pas le don, souffla Bannon.
« Oui, mais t'es notre invité, »
dit Amos, qui sembla enfin remarquer le jeune escrimeur.
« Ne te fais pas de soucis. »«
Et tu sais te servir de ton arme, »
ajouta Brock.
« C'est une forme de don. »«
Je suis très bon, »
assura Bannon, le rouge au front. L'appétit toujours en berne, Nietzsche relança la conversation.
« Votre ville est impressionnante sur bien des plans. Nous serions malvenus de le nier. Ildakar pourrait devenir la capitale méridionale de l'Empire d'Aran. »
« Le seigneur Ral, » précisa Nathan, « veut aider les pays ravagés par la guerre et donner aux gens la liberté de vivre comme ils l'entendent. Grâce à sa sagesse et à la puissance de son armée, nous vous serons très utiles. »
Maxime prit une coupe de flanc de légumes, y trempa sa cuillère et goûta.
« Nous ne savons rien de votre empire. » « Les empires naissent et meurent avec une lassante monotonie, »
soupira Thora.
« Des empereurs, nous en avons assez eu. Ildakar restera une cité libre et indépendante. »
Nietzsche ne cacha pas son scepticisme.
« Une cité libre ? Avec vous deux en guise d'impératrice et d'empereur ?
Absolument pas,
dit Maxime un peu trop vite.
Vous arrivez un peu tard,
grogna Ivan.
Il y a des siècles, une alliance aurait pu nous être bénéfique.
Mais nous avons résolu notre problème.
Le dresseur en chef Ivan parle d'or, dit Maxime. Il fut un temps où nous aurions accueilli à bras ouverts le seigneur Rall. Par exemple, quand le général Outros nous a assiégés. Mais nous avons réglé la question avec notre magie.
Il se pencha vers Nietzsche. Tu es censé sauver le monde, magicienne? Un programme que j'approuve. Mais nous n'avons plus besoin d'être sauvés. Ildakar va très bien.
Nous vivons dans une société parfaite,
rappela Tora.
C'est bien possible,
admit Nietzsche.
Mais je n'ai jamais vu une société, parfaite ou non, qui n'ait pas besoin d'être sauvée.